Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui me découvrent, je me représente, je m'appelle Claire, j'ai 32 ans, je suis une femme autiste et je vous parle ici d'amour, de relations amoureuses et d'autisme la plupart du temps. Aujourd'hui, on va parler de schéma dysfonctionnel et je voulais également vous parler d'une stratégie d'adaptation, enfin, ce qu'on pourrait dire une sorte d'autodéfense, de mécanisme de protection de mon cerveau face à des schémas, et ça va se traduire par aussi des boucles répétitives comme ça, des schémas, et notamment le schéma de méfiance-abus. C'est ça dont je vais vous parler principalement de mon côté. Je vais vous illustrer avec des histoires de ma vie et du coup la difficulté parfois de s'en sortir parce que on a des relations qui la plupart du temps en fait viennent réactiver ce schéma, en tout cas sont corrélés avec nos propres schémas, et en fait tout s'entretient, c'est toujours des boucles comme ça qu'on entretient avec certaines personnes, et on va être attiré souvent vers les mêmes personnes, vers les mêmes profils. Enfin, il y a des choses qui se répètent en fait, ça peut être plusieurs choses, ça peut être une seule chose, mais en tout cas quand on voit les différents mécanismes qui se mettent en place suivant certaines personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, certaines relations amoureuses, on peut effectivement avec du recul identifier qu'il y a des choses qui se répètent et pourquoi est-ce que ça se répète, et que du coup des schémas répétitifs comme ça, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, ce qu'on appelle des patterns, et en fait ces patterns-là, on peut s'en sortir en créant d'autres, de nouveaux patterns qui seront plus adaptés. Donc avec un nouveau système de croyances, enfin, du coup ça commence souvent par changer ses comportements, mais du coup c'est vraiment de voir qu'est-ce qui, enfin, de voir ces boucles négatives pour pouvoir derrière reformer des boucles, enfin remplacer ces boucles par des boucles vertueuses, parce que si on ne remplace pas ces schémas-là, en fait on stagne en fait, l'ancienne boucle restera toujours active, ou alors il y a vraiment une stagnation. Donc l'idée c'est vraiment de changer ça. Voilà, c'est une petite introduction. Je vous souhaite une très belle écoute, et puis je vous dis à bientôt.
Tes amours, une petite bulle entre toi et moi, où on va discuter d'amour et d'autisme. Je te partagerai ma vision, ma perception de l'amour, la manière dont je fonctionne en relation, mes hauts et mes bas, mes difficultés et mes réussites. Je te souhaite une belle écoute.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce petit podcast. Oh, excusez-moi, je m'étire. Ça fait trop du bien ça. Ça fait du bien de s'étirer. Étirez-vous, tiens. Souriez et étirez-vous. Apparemment, ça peut procurer des émotions de joie, de détente surtout. Je vous fais un podcast là, pas du tout le jour où c'était prévu. Parce que du coup, j'aimerais en tout cas m'habituer à faire ça un mardi sur deux. Avant, c'était tous les mardis. Vous savez, si vous avez écouté le podcast précédent, que je n'ai pas réussi à maintenir tous les mardis, donc j'aimerais le faire un mardi sur deux. Mais là, on est samedi. Non mais, c'est quoi le problème? Non, en vrai, y a des moments comme ça où je préfère me laisser porter. C'est super important quand je sens l'inspiration, quand je sens l'énergie aussi de le faire. Je me décide de ne pas me priver de le faire si j'ai la possibilité à ce moment-là de le faire. Voilà, je suis super contente de vous retrouver. Et alors du coup, qu'est-ce qui m'a inspiré ce podcast? Tout simplement une situation de vie. Comme vous en avez l'habitude, en tout cas pour ceux et celles qui me connaissent. Pour ceux et celles qui me découvrent, bah écoutez, bienvenue. Vous allez découvrir des podcasts où en général, je transmets en fait des réflexions, des prises de conscience, des leçons que je peux apprendre par rapport à des expériences vécues, de ma propre expérience en général. Parfois, j'illustre avec des métaphores, avec des lectures, avec des choses un petit peu de la vie de tous les jours. Et je vous partage aussi mes ressentis, ma vision des choses, pour espérer, en tout cas moi quand je me sens inspirée, j'aime vous le partager pour espérer peut-être vous inspirer également. Et pour moi cette subjectivité-là permet de créer du lien entre vous et moi en fait, ou entre moi et vous, vous voyez le truc. Bref, la subjectivité pour moi, d'ailleurs qui passe aussi par exemple par l'art, bah, c'est une façon de... Enfin, les témoignages pour moi sont une autre façon de pouvoir se mettre en lien et de pouvoir faire écho les uns les autres, de pouvoir de voir qu'on est humain en fait tout simplement. Et je trouve que c'est très aidant pour moi quand j'écoute en tout cas des audios, des vidéos, peu importe, enfin du contenu sur avec des témoignages ou des personnes qui s'expriment. Par rapport à leur vision des choses, leur, en fait, c'est ça, peu importe finalement si c'est un témoignage, mais ça peut juste être une personne qui s'exprime, en fait, qui exprime sa vision des choses. Je trouve que c'est très inspirant, et du coup, je me dis que peut-être, ou peut-être pas, hein, ça dépend des gens, peut-être ou peut-être pas, mon contenu peut vous inspirer à certains moments. Ça se trouve, ce sera juste à un moment du podcast. Ça se trouve, ce sera à aucun moment. Ça se trouve, ce sera dans un autre podcast. Ça se trouve, ce sera plusieurs fois. Ça se trouve, ça arrivera régulièrement. Et j'ai envie de dire, bah tant mieux. Je me dis que mes partages ne servent pas à rien. Alors pourquoi je continue ? Parce que j'ai des retours de votre part. Sinon, je pense que je ne serais pas plus là. S'il n'y avait aucun retour ou que, enfin, j'aurais senti que mon contenu ne vous intéressait pas ou, enfin voilà, ne suscitez pas ça chez vous. Bien entendu que j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais du coup, je continue parce qu'il y a de la demande. Et aussi, et surtout, je vous avoue, c'est peut-être assez égoïste, mais bah, c'est pour mon propre plaisir. Ça me fait vraiment du bien de transmettre tout ça. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est ultra important. J'ai l'impression que je suis faite pour ça, quoi. Il y a un truc comme ça. Genre, j'ai toujours été un peu... dans la transmission et ça me fait beaucoup de bien, donc voilà. Donc là je pars d'une situation de vie en ce moment, donc je vous mets dans le contexte. Je vis actuellement une relation amoureuse dans un modèle polyamoureux, même si ça va pas être très utile dans ce que je vais vous dire aujourd'hui en fait, mais bon, je mets le contexte quand même. Donc le plus important, c'est de retenir que je suis en relation amoureuse avec une personne. Je relationne avec une personne depuis plusieurs mois. Donc c'est quand même assez nouveau. Voilà, c'est quand même assez récent. Mais c'est assez long aussi pour dire que ça fait un petit moment qu'on construit la relation, qu'on évolue dans cette relation, et que la relation commence à se solidifier, quoi. Voilà. Dans cette relation, pour vous mettre aussi un peu de contexte, je relationne donc avec une personne qui a des comportements sains. Enfin, c'est une personne saine, mais je trouve que ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais une personne qui a des comportements sains, et qui est très sécurisant. Enfin, du coup, la relation, je sais que je baigne dans une relation qui est saine et sécurisante. Voilà. Et donc, je sais que je peux avoir totalement confiance en cette personne. Chose qui... il y a une autre personne avec qui je relationne, du coup, vu que je suis en polyamour. Donc, bon. Donc, ces deux personnes, je sais que je suis dans des relations saines et sécures. Je précise parce que, vous allez voir, du coup, vous allez comprendre. Parce que avant ces personnes-là, c'était pas le cas. Dans mes relations amoureuses, je ne vivais pas du tout ça. J'étais pas du tout dans des relations saines et sécures. Et du coup, je vais y venir par rapport à ces schémas dysfonctionnels. Alors, je crois que ça a aussi d'autres termes, genre schéma inadapté. C'est par quoi commencer. J'ai pris un peu des notes, mais j'avoue que c'est un podcast qui va être assez spontané. Je ne sais pas du tout combien de temps il va durer. En fait, ce que je voulais vous partager, c'est que je me rends compte là que... Enfin, je le savais déjà, hein, je sais déjà que j'ai des schémas dysfonctionnels. J'utilise ce terme pour moi, hein, si ça ne vous parle pas, c'est ok, mais en tout cas, moi, je l'entends comme ça. Dysfonctionnel, ça veut dire que j'ai des schémas. Donc, en général, c'est des schémas de pensée, des croyances limitantes, des choses qui se répètent, des schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour moi et qui dysfonctionnent dans le sens où ça ne me permet pas d'avoir des comportements adaptés, que ce soit de moi à moi-même, hein, parce que du coup, ces schémas, je peux les vivre toute seule ou avec l'autre. Ces schémas, j'en avais déjà identifié, mais ça fait très longtemps que je suis consciente du fait que y a des dysfonctionnements. Maintenant, l'évolution, enfin, quand on évolue, en tout cas, pour moi, souvent on regarde un problème sous différentes facettes, suivant bah, notre perception du moment. Et donc, bah, j'ai beaucoup travaillé sur certains schémas, mais de plein de manières différentes et depuis longtemps. Et en fait, là, je réalise autre chose sur ces schémas-là. Donc, je vais prendre un exemple d'un schéma, en fait, bah, concrètement de ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je vais l'appeler, alors je pense que je ne me trompe pas, mais en même temps, je pense qu'il y a plein d'appellations. Mais bon, je vais prendre mon appellation, c'est que moi, je vais appeler ça un schéma de méfiance. Peut-être ça va vous parler, du coup. Ce schéma de méfiance, chez moi, il se traduit par plusieurs choses. Et en fait, j'ai toujours eu ce schéma de méfiance. Je crois que je l'ai eu même dès la première relation amoureuse. Je crois. Mais je ne suis pas totalement sûre, mais je crois. La plupart du temps, les schémas dysfonctionnels proviennent en fait des modèles relationnels qu'on a pu avoir dans notre enfance. Et moi, je vais vous dire un truc et que je capte là aussi. C'est que j'ai avoir du mal à le dire parce que en fait, je pense que j'avais du mal à l'admettre. Je sais que j'ai beaucoup rejeté ce truc de psychologie de c'est la faute des parents, c'est enfin je sais pas comment dire, genre tous mes problèmes en gros viennent de mon modèle relationnel et tout. Et je vous assure que là je capte en fait que j'avais vraiment rejeté ce truc-là et que ça m'aidait pas du tout de rejeter ça parce que du coup ça m'empêchait d'avancer. Alors, pour expliquer, quand je dis ça, c'est que j'explique que je ne... Ça ne veut pas dire que mes parents ou mes modèles relationnels ont structuré absolument tous mes comportements et que tout est lié à ça. C'est pas ça. Mais c'est pas non plus l'inverse. Et du coup, j'avais tendance à être un peu noir ou blanc en mode... Bref... Pourquoi j'ai eu cette croyance-là, c'est qu'au tout début de mes thérapies, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, et en fait, mes premières thérapies, c'était beaucoup basé là-dessus. Et je pense que j'étais simplement pas en capacité d'entendre ça. D'entendre le fait que c'était, en gros... Alors, on me le disait sûrement pas comme ça, on me disait pas c'est la faute des parents, mais on m'expliquait que ça venait très certainement de l'enfance, etc. En tout cas, c'était une certaine... Il y avait souvent cette approche, en fait. Et moi, ça me saoulait, en fait, parce que j'étais là, c'est bon, je sais que j'ai vécu, en gros, une enfance, une adolescence de merde. Enfin, voilà, il y avait cette réflexion, c'est bon, j'ai pas besoin qu'on me le redise, en fait, je suis grande. Enfin, voilà. Et il y avait vraiment ce truc où ça me rendait pas autonome, en fait. Et du coup, je me retrouvais face à ça, en mode, mais non, j'ai su évoluer par moi-même, j'ai su me débrouiller. Il y a vraiment ce truc très fort chez moi d'autonomie. Et de me dire, je ne suis pas prisonnière je ne veux pas que ce soit... Il y avait un truc comme ça, je ne veux pas que ce soit un truc classique de modèle parental qui m'a structurée. Et, voilà, bon. Donc ça, en tout cas chez moi, ça a généré vraiment un rejet. Et là, je viens de le capter en fait, et je me dis, mais en fait, c'est super important d'avoir conscience de ça, en fait. Et du coup, j'ai l'impression, au final, aujourd'hui, d'être plus autonome et mature, on va dire ça comme ça, de réaliser ça, de réaliser que, ben si, en fait, mes modèles relationnels, j'ai eu ça comme modèle relationnel, voilà, de manière neutre, quoi. C'est ça que j'ai vécu et c'est ça que j'ai perçu aussi. Et c'est ça que j'ai eu comme réponse à certains traumas ou à certains comportements de certains, enfin de mes parents, etc. C'est ça qui s'est passé, c'est ma vie en fait. C'est ça qui s'est passé, quoi. Et du coup, chez moi, ça a créé, il n'y a pas eu que ça, hein, mais ça a quand même contribué énormément à ma construction, à ma sécurité intérieure et à la façon dont, voilà, dont je me développe et dont je vais réagir au monde en fait, qui m'entoure. Donc ça, c'est le premier truc, c'est reconnaître en fait, déjà qu'on ne va pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que deuxièmement, ben, oui, c'est bien d'aller voir aussi dans l'enfance ce qui s'est passé, quoi, en fait. Enfance, adolescence, comment est-ce qu'on s'est construit? Et ça, c'est vrai que j'avais pas mal écarté, alors que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup rabâché. Et là, c'est comme si j'étais en train de le regarder, en fait. Et je me dis, mais ah ouais, ok, j'ai vécu tout ça, j'ai réagi comme ça, etc. Bref. Donc, j'ai plus discerné, en tout cas, ce qui... En fait, ça m'a permis de comprendre que c'était pas de ma faute, qu'en fait, il n'y a pas de coupable en soi, que les personnes, entre guillemets, ont fait ce qu'elles ont pu à ce moment-là. Et que du coup, ben, aujourd'hui, je suis adulte et que je peux réagir par rapport à ça de manière plus appropriée parce que mes réactions de l'enfance ou de l'adolescence, en bref, et même jusqu'à en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup encore de mes réactions qui sont encore rattachés à ça, à des réactions comme des stratégies d'adaptation, en fait, à ces schémas-là. Et... Bref, du coup, le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que ça impacte, bah là, en l'occurrence, ma relation actuelle. Alors, je ne dis pas que ça impacte en mode... ça la gâche complètement, on va se séparer, c'est pas ça, mais ça a un impact en fait, ça a un réel impact. Ça a un impact sur la personne, enfin sur la relation, mais sur la personne aussi. Et sur moi, évidemment, du coup. Et voilà, ça va un peu tout ensemble, quoi. Et là, je me suis rendu compte, là aujourd'hui, j'ai fait, mais, ah, non, mais ça, c'est pas possible en fait. Enfin, je me suis dit vraiment, sincèrement, c'est pas possible que. Mais en fait, que mon modèle relationnel lié à l'enfance, lié au passé, lié à tout ça, ait autant d'impact aujourd'hui, en fait, sur ma vie d'adulte, sur ma vie que je choisis, sur ma vie relationnelle, sur en plus des relations aujourd'hui que j'arrive à construire qui sont saines et sécures. Non. Là, je me suis dit, il ne faut pas que je laisse passer ce truc-là. Donc là, j'en suis là. Hein. J'en suis là dans ma réflexion. Il n'y a rien de concret qui a été fait aujourd'hui. Mais pour moi, le plus gros du chemin, c'est d'en prendre conscience et c'est d'accepter. Donc là, j'ai pris conscience de ce schéma, en tout cas de méfiance, qui est légitime, hein, qui est totalement légitime par rapport à ce que j'ai vécu, mais qui n'est pas adapté par rapport à ce que je vis aujourd'hui avec cette nouvelle personne, en fait, qui, lui, n'a rien demandé, en fait. Qui, lui, n'a rien à voir avec mon bagage traumatique, qui en fait, n'a, ouais, il n'a rien demandé, quoi. Et donc, le fait de, on va dire, de réagir, c'est souvent une, je ne dirais pas une surréaction, mais une réaction qui n'est pas adaptée, tout simplement. Comme si la personne était en tort un peu, ou fautive, ou enfin voilà, qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle alors que ça n'a rien à voir. Enfin, moi, du coup, ça m'a vraiment mise en posture d'empathie vis-à-vis de la situation et vis-à-vis de la personne. Ça m'a mise aussi en posture de... Bah, je me suis pris la réalité en pleine gueule, hein, clairement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que avant... Pourquoi est-ce que je m'en suis pas vraiment rendu compte avant ? Pour moi, hein, c'est mon analyse là-dessus. Hein, c'est, voilà. En fait, je m'en suis pas rendu compte pour moi avant parce qu'avant, je reproduisais ces schémas au sein de situations, enfin au sein de relations qui ressemblaient aux relations que j'avais vécues dans l'enfance. Enfin, au modèle. Donc en fait, c'est comme si je répétais des schémas avec une personne en face qui alimentait mon schéma. Et en fait, il y a un truc, il y avait une boucle répétitive, mais qui ne s'arrêtait jamais et dont on ne prenait en général jamais conscience jusqu'à la rupture, en fait. Et même après rupture, on ne se rendait même pas compte, quoi. Il y avait un truc comme ça. Enfin, d'année en année, moi, je commençais à me rendre compte de certains trucs, mais sinon, je n'en serais pas là aujourd'hui, d'ailleurs. Mais avant, c'est comme si je vivais au travers de ces schémas sans que ce soit, alors pas un problème, mais sans que ça... Vu que la personne en face alimentait le truc, bah, en fait, ça faisait que répondre à tout ça. Et du coup, je ne pouvais pas vraiment me prendre en pleine figure mon problème. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je suis dans une... Et c'est pour ça que je trouve ça assez paradoxal, selon moi. Et ça me fait trop bizarre. Parce que relationner avec une personne où l'espace de la relation, il est sécure, sain et tout, et où il n'y a juste pas du tout ces schémas-là, bah c'est complètement nouveau pour moi, en fait. Donc ouais, je me retrouve dans un espace où, inconsciemment, je reproduis ces schémas-là qui n'accrochent pas. Et qui ne... la personne en face ne l'alimente pas. Enfin, ou peu, ou pas de la même manière que ce que moi j'ai connu, en fait. Et donc c'est très déstabilisant, c'est très... Bah, du coup, ça a pas mal renforcé, moi, mes insécurités, de manière inconsciente, parce que j'arrivais pas à... C'est comme si, en fait, avant, j'arrivais à trouver, c'est bizarre, hein, une sécurité dans mon schéma insécure, enfin, dans mon schéma complètement dysfonctionnel. Enfin, en fait, c'est pas paradoxal, parce que c'est assez logique. C'est que avant, pour moi, vu que c'était connu et familier, bah, y avait un truc comme ça où je répétais quelque chose que je connaissais. Donc en fait, il y a un côté très rassurant, quoi. Donc finalement, même si la personne, j'étais en insécurité permanente, c'est comme si ça me sécurisait un peu. Enfin, vous voyez le truc. Parce que la personne répondait comme j'avais besoin qu'elle me réponde, etc. Et il y avait un truc comme ça. Ça finissait jamais bien, mais c'était comme ça, quoi. Et là, en fait, je me rends compte que, ben, juste... je me suis juste retrouvée face à mon schéma et face au truc de genre, putain, mais il n'y a pas de... C'est, encore une fois, c'est inconscient. Hein, mais ça faisait comme si c'était en mode, mais il n'y a pas de répondant, quoi. Pourquoi ça prend pas... Et je suis déstabilisée, je suis insécurisée, je comprends pas. Et du coup, bah en fait, je me le suis prise dans la gueule, quoi. C'est comme si je l'avais vu, en fait, en miroir, et que c'est moi que je me suis... C'est comme si bah, je tournais en boucle toute seule, quoi. Je me suis vue, moi, en fait. Et là, j'ai fait, ah, ça fait mal. Parce que je suis toute seule dans mon truc, je suis en train de pourrir la relation, en gros. Enfin, c'est peut-être pas à ce point-là, mais je suis en train de... Je commence un peu à saboter la relation. Alors, je suis pas en train de me dire, genre, c'est ma faute, je suis une victime. Enfin, vous voyez, genre, j'ai pas envie d'avoir cette posture-là non plus en me disant, je suis horrible comme personne, je suis toxique. Enfin, je pense que là, c'est la meilleure façon de justement encore plus saboter le truc. Pour moi, là, l'idée, en tout cas, la bonne réaction à avoir, c'était de juste prendre conscience de ça et de l'accepter et de juste neutraliser le truc. Hein, de voilà, il n'y a pas de coupable ou quoi. Parce que je pense que on peut vite, quand on s'aperçoit de ça, on peut vite se sentir coupable et de ressentir une injustice de mais putain, mais. C'est injuste, en fait, d'avoir été construite comme ça, d'être dysfonctionnelle comme ça, en fait. De quelque chose qui ne m'appartient pas du tout à la base, en fait. Et en plus de ça, de porter ce bagage, ben, je pourris mes relations, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où c'est dur. C'est super difficile, quoi. Mais pour moi, si on continue à se dire, je suis qu'une merde, de toute façon, je pourris tout, machin. Mais en fait, on continue, en fait, d'être là-dedans. Là, j'ai vu ça, ça pique, ça fait mal parce que ça nous met, ouais, ça nous met face à nos difficultés. Là, ça m'a mis clairement face à mon à ce truc-là, à toutes ces émotions. Et je me suis dit, bah, en fait, t'as deux choix, quoi. C'est soit t'as trois choix. Soit tu continues à relationner de cette manière, genre en gros, tu fous en mode déni et tu continues, qui du coup, ça va forcement être voué à l'échec. Soit te victimises et tu dis que, oh mon Dieu, c'est horrible et tout, mais du coup, tu fais vraiment rien pour agir, quoi, en fait. Et tu restes dans le truc. Soit ben, tu reprends le pouvoir de la situation, enfin tu reprends une certaine maîtrise et tu agis en fait. Et tu transformes cette situation en quelque chose qui va être plus bénéfique pour toi, pour l'autre, pour la relation, même si c'est difficile. Parce que franchement, moi je suis là, vu ce que je suis en train de traverser, je suis très tentée de repartir facilement dans le schéma que je connais. Ou de me victimiser, enfin de trouver une stratégie pour ce serait facile pour moi parce que c'est ce que j'ai connu. Sauf que là, j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai plus envie de faire ça parce que ça me dessert, parce que ça me fait souffrir, parce que ça fait souffrir tout le monde, parce que c'est fuir ses responsabilités à mon sens. Après moi, c'est parce que j'en suis là aujourd'hui. Je dis pas que c'est simple et tout. Enfin voilà, je précise parce que je sais que c'est difficile et chacun évolue à son rythme. Mais voilà, bref. Moi, j'en suis là aujourd'hui et je me dis juste, je veux pas gâcher justement cette relation qui mérite sincèrement que je sorte de ça et que j'apprenne à avoir par exemple, me relationner ou construire avec un nouveau schéma ou avec, en tout cas, de transformer ce truc-là. Alors je sais pas encore, enfin j'ai quelques pistes, j'ai quelques idées un peu concrètes quand même, ouais, pour aller de l'avant par rapport à ça, donc que je vous partage. C'est vraiment un partage assez spécifique là sur ce schéma de méfiance par exemple, mais déjà premièrement c'est que ce schéma de méfiance, pour vous donner cet exemple-là, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que par exemple cette personne qui, encore une fois, je vous répète, est saine et sécure, et j'en suis profondément convaincue. Je sais que je suis pas en train de me leurrer, en train de d'imaginer un truc, de m'illusionner comme j'ai pu faire à certains moments. Non, je sais en fait. Et puis il m'a déjà prouvé je ne sais combien de fois. Enfin, j'ai rien à lui reprocher. Je sais. Enfin bref, je sais. Je sais que je peux avoir confiance à cette personne. Mais du coup. En fait, cette personne, elle est comme elle est. Et par moment, comme tout type de relation, on va être déclenché. Tout comme moi, je peux déclencher cette personne. Donc, il y a des émotions. Enfin, du coup, par exemple, cette personne me dit quelque chose, ou je sais pas, ou fait quelque chose, ou j'en sais rien. Enfin, bref. Des fois, il suffit même pas de dire ou de faire, juste la personne, elle est, et ça me déclenche. Bon. Eh ben, je suis déclenchée. Et ce qui se passe, c'est que ça va me provoquer. C'est automatique. Hein. Les schémas, c'est les schémas qui sont automatiques. Donc, ça se fait tout de suite. Hein. C'est réactionnel. Tout de suite, En général, moi, ça se passe d'abord par des émotions. Enfin, c'est ça que je ressens le plus. Du coup, oui, parce que je ressens. Mais c'est surtout ça que je perçois le plus. Donc, je ressens des trucs dans mon corps. Et des trucs qui me traversent, ça me... Ah, c'est hyper inconfortable. C'est souvent très intense. Et ensuite, j'entends du coup toute une succession de pensées. Et ça, franchement, j'avais tellement pas conscience de ça avant. Donc déjà, je trouve ça ouf de réussir à capter ce truc-là. Donc succession de pensées, je rumine. Enfin, vraiment, il y a des tas de trucs qui m'envahissent. Émotionnellement et au niveau des pensées, souvent ça va de pair, hein. En général c'est les pensées qui alimentent, enfin qui provoquent les émotions négatives et tout. Et en fait dans ce flow là, je me sens piégée, très clairement, je me sens envahie, je me sens, enfin c'est hyper intrusif, je suis noyée, je me sens complètement noyée. Et donc, dans ces moments-là, j'ai énormément de mal à être lucide et à voir la réalité. C'est-à-dire qu'après, je projette sur l'autre énormément et je vois l'autre comme un danger. Enfin, moi, c'est ça que ça me provoque dans le truc de méfiance. Là, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que l'autre est un danger. Donc, tout mon système nerveux, enfin, je sais pas, tout se met en alerte, en fait. Mon corps se met en alerte, tout est en mode alerte rouge. Il y a un danger, il y a une insécurité, il y a quelque chose, en fait. T'es pas en sécurité. Alors, je ne nie pas le fait qu'il y a des trucs qui... Bon, je vais en parler après, parce que sinon, ça va être beaucoup trop long, mais... En fait, c'est ça que je voulais juste dire en parenthèse, si, quand même, c'est que je ne nie pas le fait qu'il y ait des vraies insécurités qui existent. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des vrais dangers potentiels et il y a des. Enfin, moi, dans les relations que j'ai eues par le passé, toxiques, enfin, certaines relations, enfin, en fait, non, toutes, bon, eh ben, il y avait des red flags, il y avait des vrais trucs qui me mettaient en danger. Il y avait des. Là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, en fait. Mais mon corps, mon cerveau, je sais pas quoi, là, voilà, alerte rouge, quoi. Tout le monde pense, là, en moi, que je suis en réel danger. Du coup, je me suis complètement perdue, là. Donc, du coup, je disais que, voilà, donc cette personne me déclenche, comme n'importe qui. Mais du coup, chez moi, ça envoie, en gros, des signaux... qui sont plus reliés à des signaux de peur, mais irrationnels, en fait, et qui ne sont pas du tout objectifs. Enfin, de toute façon, oui, c'est pas objectif, c'est pas rationnel, mais vous voyez, de peur qui n'émane pas d'un vrai danger, quoi. Et du coup, ça fait que je calque... Enfin, c'est des sortes de distorsions, en fait. Je calque des choses... sur l'autre, qui sont erronées, qui sont totalement erronées, parce qu'en plus, la plupart du temps, mes pensées à ce moment-là, qui provoquent ces émotions-là, sont des pensées... Enfin, la plupart du temps, la réponse, elle n'est pas du tout là-dedans, en fait. Enfin, c'est la vérité, le vrai truc, et pas du tout là-dedans. Bref, tout cette espèce de choses qui se met un peu en travers de mon chemin. J'avoue que moi, je le ressens comme ça. En tout cas, je sens que c'est un truc qui me possède un peu et qui se met en mode automatique. Et bim, ça projette un tas de trucs qui sont faux, quoi. Qui sont erronés. Et qui font que je vois que la réalité est complètement déformée, quoi. C'est-à-dire que, genre, deux secondes avant, tout allait bien. Et là, il suffit d'un truc et bim, ça me déclenche. Et du coup, bah ouais, ma réalité change complètement. Ma perception a changé. Et du coup, je vois tout à travers ces filtres-là de méfiance et tout ce que ça amène. Parce que là, je parle d'un schéma de méfiance, mais le lot que ça amène, c'est assez ouf, en fait. Typiquement, moi, ce qui me vient, si ça peut vous parler dans le schéma de méfiance, est-ce que du coup, je suis sûre que là, il est en train de me manipuler, du coup, il est en train de me dire ça, mais ça se trouve, il pense l'inverse, en fait. Enfin, en fait, je suis même plus présente, en fait. Parce que je suis constamment en train de surinterpréter et d'analyser et d'anticiper. Et de croire qu'il va faire ça, il va faire ça, il fait ça, en fait, c'est parce que machin... Et c'est... Alors ça, c'est quelque chose que je connais depuis toujours, en fait. J'ai toujours surinterprété, j'ai toujours analysé, j'ai toujours été comme ça, dans un truc de méfiance, de par mon vécu, encore une fois. Donc ça s'explique, hein, c'est pas... Voilà, c'est... Je me suis construite comme ça, donc j'ai ce biais-là, j'ai cette vision aussi-là de la réalité par moment. Et c'est difficile parce que ouais, on se sent piégé, on se sent impuissant, alors que c'est faux. Je tiens à le dire là, dans ce podcast, c'est faux. On n'est pas impuissant face à ça. On peut trouver des solutions, il existe des solutions, et on peut même transformer ça et à ce que ça change même assez rapidement, en fait. Donc, ça peut être par des exercices de coaching, des thérapies cognitives comportementales. Je pense à quoi ? Enfin, moi, je pense à ça parce que c'est ce que j'ai testé, mais je pense qu'il existe énormément de choses pour pouvoir traverser ça et changer son système de croyance. Moi, je trouve que le coaching ou la TCC, ça marche bien dans ces trucs-là, bah, parce que c'est vraiment ce truc de schéma répétitif. Et voilà. Donc, d'ailleurs, je vois ma coach dans 2 jours. Donc. Pour travailler là-dessus, très clairement. Parce qu'à partir du moment où je perçois quelque chose, j'ai pris conscience de quelque chose et que surtout que je l'accepte, que je l'assume, voilà, bah, pour moi, c'est le temps d'en faire quelque chose. Genre, de me décider, bon, bah, qu'est-ce que j'en fais en fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça m'apporte ce truc-là aujourd'hui, de bien ou de pas bien ? Et là, en l'occurrence, ce truc-là ne m'apporte rien de bon, que ce soit pour moi, pour la relation, pour la personne. Donc, qu'est-ce que je fais de ce truc ? Et donc là, bah moi, je vais donc voilà un autre exemple d'outil que vous pouvez, si ça vous arrive, en tout cas, enfin d'outils, en tout cas d'idées pour aller mieux. Bah ouais, c'est la thérapie quoi, ou le coaching ou des trucs comme ça. Après, il y a d'autres choses. Hein, je vais pas vous conseiller de trucs que j'ai pas essayé, mais. Mais pour moi, c'est ça. Et puis, bah justement, un outil de coaching qui, là, je pense, va m'aider. Je n'ai pas encore vraiment... Enfin, je l'ai un peu utilisé tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose que je vais approfondir. Mais je vous lance là comme ça. C'est faire une sorte de tableau un peu avec une méthode, enfin un truc assez simple à suivre avec des étapes, des questions. Alors, attendez. Je vais aller devant, ça va être beaucoup plus simple. Donc, d'ailleurs, c'est ce que j'avais aussi vu en thérapie cognitive comportementale. Donc, le premier, dans le tableau, alors du coup, c'est un tableau qui va avoir 6 colonnes. Le premier, c'est d'identifier donc, la situation, l'événement, enfin le truc qui fait que... Ouais, c'est la situation en toute neutralité. Donc sans jugement, hein, sans jugement de la situation, c'est juste neutre quoi. Genre c'est quoi la situation ou l'événement. Ensuite, c'est d'identifier les émotions associées. Alors du coup, ça me rappelle un truc en TCC. Les émotions associées à cette situation, qu'est-ce que ça a déclenché chez vous. Si vous arrivez à identifier le schéma, c'est encore mieux. Mais voilà, déjà les ressentis, les émotions et tout. Ensuite, ça peut être les sensations aussi dans le corps, enfin des trucs comme ça, que ça peut vous aider. La troisième colonne, c'est les pensées automatiques. Donc en gros, là, c'est de lister toutes les pensées qui vous viennent, quoi. Donc voilà, toutes les pensées qui sont associées à tout ça. Ensuite, alors je me demande si je ne vais pas vous donner un exemple concret. Ouais, je pense que je vais vous donner un exemple concret. Alors, par exemple, une situation, quand tu as un schéma de... Comment il s'appelle ce schéma ? En vrai, moi, j'ai mis méfiance, mais j'ai aussi mis schéma d'abandon. Voilà. Et donc, en gros, la situation, l'événement, c'est de manière neutre. Cette personne ne me répond pas. C'est tout. Et alors je pourrais rajouter une limite, genre ne me répond pas depuis 2 heures. Bon, un truc comme ça, tu vois. Cette personne ne me répond pas depuis 2 heures. Bon, soit, voilà. Le schéma et les émotions associées, donc j'ai mis abandon et méfiance. J'ai mis l'intensité de ce que je retrouvais. Alors là, c'est un exercice que ma coach m'a donné, que je vous livre du coup, qu'elle avait dû... Ouais. Voilà, donc moi j'ai mis que je ressentais à 80% ce truc-là en mode... abandon, méfiance et tout. Donc voilà, de ce que je ressentais dans le corps. Après, bon, j'ai détaillé, genre, j'ai un peu mal au ventre, je me sens agitée, je fais que de penser à la personne, je fais que d'aller regarder mon téléphone. C'est plutôt les comportements, mais je sens une boule dans ma poitrine. Enfin, voilà. Ensuite, les pensées automatiques, bah, j'ai mis, par exemple... il me fait la gueule, enfin peut-être qu'il me fait la gueule, peut-être qu'il veut me quitter, mais en fait je pense qu'il va me quitter, il pense que je suis mauvaise pour lui, il pense que je suis toxique, il m'aime plus, peut-être qu'il est grave saoulé de moi en fait, peut-être qu'il veut plus être en lien avec moi, peut-être que, enfin des trucs comme ça quoi. Voilà donc. Voilà. Ensuite, là, franchement, je rentre vraiment dans l'intimité, du coup, je m'en rends compte. Ensuite, la quatrième colonne, c'est les pensées adaptées à la situation. Quelle pensée serait adaptée à cette situation ? Et du coup, j'ai mis, il est occupé, il a besoin de couper son téléphone, il a besoin de se recentrer, d'être tout seul, d'être avec lui-même, etc. Après, qu'est-ce que j'ai mis ? Il m'aime, il veut toujours être en relation avec moi, il vient de me le dire, il ne m'oublie pas, il est bien intentionné, je peux avoir confiance en lui, enfin, je ne sais pas, genre des trucs comme ça, quoi. Si ça ne va pas, il me le dit, c'est quelqu'un d'honnête. Voilà. Enfin, je pense qu'il faut mettre un maximum de trucs quoi là-dedans. Ensuite, il y a la catégorie des résultats, la cinquième colonne. Et là, j'ai noté que effectivement, je ressentais plus d'abandon. À partir du moment où j'ai mis les pensées adaptées, je ressens pas d'abandon. Il y a encore un petit peu de méfiance. Donc là, ça demande peut-être à remettre d'autres pensées. Mais voilà, c'est léger, quoi. Je ressens plus ces trucs-là. J'ai réussi à m'apaiser par moi-même et tout. Et du coup, l'action... la dernière colonne, c'est l'action. Donc j'ai mis... ne pas être... Enfin, l'idée, c'est de ne pas être en posture d'attente, mais plutôt, à la limite, d'envoyer un message à la personne et de lui parler en mode normal. Et puis, se dire qu'elle va finir par répondre, comme toujours. Et du coup, cette personne, dans le vécu, pour vous expliquer par rapport à cette situation-là, par exemple, cette personne a fini par me répondre très rapidement et qu'il n'y a eu aucun souci. Du coup, ça annule le schéma et c'est là que je me rends compte dans l'expérience que tout va bien. Enfin, là, c'est vraiment... Alors, je suis vraiment rentrée dans un exemple très précis, mais je ne sais pas si ça va vous parler comme ça. Mais ça peut être plein de situations comme ça du quotidien, que ce soit avec l'autre ou pas. Bref. Quand vous êtes dans un schéma, c'est d'identifier tout ça. Après, j'avais un autre exercice aussi en TCC qui ressemble un peu, qui est peut-être un petit peu plus évident. Alors, je vais vous le dire comme ça. Moi, je dessinais un cercle plutôt qu'un tableau. Donc, c'est un cercle qui représente le schéma, en fait, répétitif. Le premier truc que je mettais, donc pareil, la situation, de manière neutre, ou l'événement. Le deuxième, c'était... Alors, attendez, je vais reprendre mes notes pour ne pas dire de bêtises. Ouais, alors, de mémoire, parce que je n'ai pas retrouvé l'exercice, mais je crois que c'était donc, en premier lieu, c'était donc identifier la situation, de manière neutre, sans jugement. Ensuite, c'était d'identifier ses émotions associé. Ensuite, c'était d'identifier ses sensations du corps et tout ça. Et ensuite, c'était d'identifier ses comportements. Et à la fin, le résultat. Voilà. Et du coup, je le notais en forme de cercle, là, en mode schéma, quoi. Voilà, je crois que c'est tout. Donc ça, vous pouvez faire ces petits exercices-là. Ça aide vraiment à capter le schéma et du coup, à pouvoir remplacer par des pensées. Après, c'est bien de se faire accompagner là-dessus quand on connaît pas trop ce truc-là, parce que c'est pas évident sur le coup. Mais l'idée, c'est de remplacer, en fait, de commencer par remplacer certaines pensées, certaines croyances, et ensuite d'arriver comme ça, tac, 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 à avoir des émotions différentes, à avoir des comportements différents, etc., etc., et d'aller dans un cercle qui est plus vertueux. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous partager. Ouais, aujourd'hui. Alors si, je viens de penser un petit truc. Je me suis dit aussi que quand on est dans ces schémas-là et qu'en plus on relationne à quelqu'un de sécure, je m'aperçois qu'en fait, ça peut... on peut devenir... J'ai plus de voix là, je pense que je vais bientôt arrêter. Mais on peut devenir la personne qui insécurise l'autre. De par ces schémas, forcément, du coup, qu'on répète, qui sont pas forts, qui... Quand on vit des relations toxiques, c'est la relation qui est toxique. Parce qu'il y a deux personnes qui sont dans des schémas ou des trucs, mais du coup, on a des comportements toxiques qui alimentent ce truc-là. Mais quand il y a une personne qui, à la base, est sécure et qu'on arrive avec notre bagage et ces schémas-là, cette personne peut être vraiment impactée, en fait. Enfin, du coup, c'est pas pour dire genre pour vous culpabiliser ou quoi, mais c'est vrai que je prends conscience. C'est bien de prendre conscience en fait qu'on a un rôle en fait, une responsabilité par rapport à ça, et que on n'est pas tout seul à avoir besoin d'être sécurisé, et que du coup, là dans cette relation là par exemple, bah je m'aperçois que même si cette personne de base elle est sécure, bah avec moi, avec ces schémas-là, ça lui a créé de l'insécurité. En tout cas, c'est ce qui a l'air de se dessiner. Et beaucoup d'anxiété aussi. Et donc pour moi, oui, on a un vrai rôle là-dedans. C'est super important de si on a envie de relationner comme ça avec des personnes et de pas, bah, d'avoir vraiment envie que les choses se passent bien, tout simplement, et de se sentir mieux. Bah on peut se faire accompagner là-dessus et on peut agir dessus, en fait. Il y a vraiment des solutions qui existent, en fait. Et voilà, je voulais terminer là-dessus parce que c'était important pour moi de dire qu'on a vraiment un rôle et que c'est important de reprendre son pouvoir sur la maîtrise de ce truc-là, quoi, en fait. Et aussi de pouvoir avoir ce rôle de quelqu'un qui réassure l'autre. Et qui sécurise, qui peut réussir à sécuriser l'autre. Parce que c'est pas parce que nous, on a vécu ça et qu'on a besoin d'être vachement rassuré, sécurisé plus que la moyenne, que des personnes qui se sentent globalement en sécurité n'ont pas à des moments besoin aussi de ça, en fait. Parce que justement, on arrive avec quelque chose qui est dysfonctionnel en fait à la base. Donc je pense que peu importe avec qui je relationne et que j'embarque avec un schéma comme ça qui ne fonctionne pas, je pense que peu importe la personne, je vais forcément l'insécuriser en fait. Je sais pas si vous voyez le truc. Après c'est mon avis hein, là-dessus, mais voilà ce qui me venait. C'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir d'être là. Peut-être que je referai un podcast quand même mardi. Là, on est samedi, ouais, peut-être. Du coup, là, j'ai été inspirée, donc ça a pu faire un petit peu de contenu. J'espère que vous allez bien, à part ça. Moi, j'avance en parallèle aussi sur un projet. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, je ne sais plus. Mais en parallèle de ce podcast-là, je suis en train de créer un projet qui est complètement en lien d'ailleurs avec ces podcasts, en fait, avec le thème de TS Amour, les relations amoureuses, l'autisme et tout ça. Donc vous voyez que là, vous voyez, j'ai pas du tout parlé d'autisme, même si j'aurais pu en parler, parce qu'il y a des choses aussi qui font que... il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'inquiétudes de base, il y a beaucoup de choses... Enfin, même si on a vécu dans un cadre sécure quand on était enfant, quand on est une personne autiste, on peut être amené à vivre des situations qui nous ont mis en danger et qui ont pu créer justement ces trucs, ces schémas-là à l'âge adulte, enfin bref, aujourd'hui quoi. Donc j'aurais pu en parler de ça, mais voilà, bref. Donc je suis en train de créer, un truc en coulisses là. Vraiment, j'y vais, mais tranquille. Mais j'espère que ça va sortir à la rentrée, enfin en début d'année prochaine, pour pouvoir en fait savoir. Vous verrez du coup. Mais en tout cas, ce sera en lien avec les relations amoureuses surtout. En fait, oui, clairement, ça va être sur ça. Et l'autisme, je vais vraiment allier les deux. Donc, typiquement TS Amour, ça va être une continuité. Et j'espère qu'il vous plaira, en tout cas. J'ai trop hâte de vous en parler, mais je vois que c'est pas encore le moment. Je pense que j'en parlerai quand on sera un peu plus mûr. Mais sachez que j'y travaille en tâche de fond. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit en commentaire. N'hésitez pas, je le dis jamais ça. Si je mets un petit truc à la fin, mais n'hésitez pas à mettre des petites étoiles là, ou des avis... sur Apple Podcast, Google Podcast, ou je sais pas où là, Spotify, tout ça. Parce que moi, ça m'aide à me faire connaître, évidemment, et ça me soutient énormément. Mais aussi, ça me permet de voir s'il y a de l'intérêt, quoi. Donc, le fait parce que maintenant, en fait, on peut mettre des commentaires. Alors, sur Apple Podcast, je crois que c'est déjà le cas. Mais maintenant, on peut le faire sur Spotify. Donc, c'est trop bien. Du coup, n'hésitez pas à mettre des avis. N'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram en message privé pour échanger sur, je sais pas, quelque chose sur le podcast qui vous a parlé. Voilà, c'est possible. Et vous pouvez me contacter sur Instagram sur donc la vie en pause, la.vie.en.pause. La vie en pause. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.
Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.